Et nous l'accueillons pour une première fois en 2019, première d'une longue série. Bien sûr, Philippe Quentin qui est là. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Ça va bien? T'as l'air en pleine forme,
oui,
en tout cas?
Oui, oui, toi aussi.
Ça va très bien.
Des fêtes. Beaucoup de football, beaucoup de hockey. Alors,
oui, monsieur. Puis tu sais, écoute, le temps des fêtes, même si on n'est pas en onde tout le temps, je sais que t'as collaboré, mais on continue d'être spectateur puis de regarder. Fait qu'on revient, puis on a juste hâte de revenir. Puis là, on arrive dans les matchs éliminatoires de la NFL. Mais on va amorcer l'année avec un sujet qui est cher à bien des auditeurs, bien sûr, c'est le hockey, le Canadien. Tu as trouvé réconfortant d'entendre Marc Bergevin en début de semaine à l'émission écarter l'idée d'échanger un morceau d'avenir à la date limite des transactions.
Spécialement à ton micro lundi, Mario, parce que tu l'as un petit peu, tu l'as poussé un petit peu dans les câbles. Même à la fin, tu as dit « Oui, mais Marc, hein, si jamais tu avais une chance et tout. » Et puis, j'ai trouvé qu'il est resté fidèle à son propos, parce que sa dernière réplique, ça a été de te dire « Ah, tu laisserais aller Pelling. » Non, je ne ferais pas ça. Alors, tu sais, j'ai trouvé ça bien parce que tu l'as poussé, puis malgré tout, il n'a pas véritablement ouvert la porte en disant, bien sûr, que c'est son travail.
Il n'a rien exclu non plus, cependant.
Tout à fait. Mais je pense que, tu sais, c'est sûr que si tu as une occasion absolument extraordinaire, c'est une chose. Mais moi, je pense surtout à un échange. Ça a toujours été ça, ma théorie. Une espèce d'échange pour combler un trou à court terme. Tu sais, tu dis, écoute, on a une chance de participer aux séries. Le Canadien a participé au tournoi éliminatoire seulement une fois dans les trois dernières années. On sait qu'on n'a pas grand-chance. Il y a Toronto, il y a Tampa Bay dans la division, si on joue les séries dans cette division-là. Tu n'as pas grand-chance d'aller loin. Alors, tu sais, je pense à un échange, par exemple, aller chercher un gars comme, il y a quelques années, Jeff Petrie. Je ne suis pas sûr que l'arrivée d'un Petrie 2 cette année permettrait aux Canadiens de faire deux rondes de plus en séries éliminatoires. Tu vois, l'équipe est en construction. On voit
il y a
que
un timing pour faire des gestes.
C'est ça.
Comme on a souvent mis, il y a plusieurs experts, commentateurs comme nous qui ont souligné le fait qu'un ancien collègue de travail à Chicago de Marc Bergevin, c'est-à-dire le DG des Jets de Winnipeg,
ouais.
On l'a blâmé pour pas avoir
pas bougé.
Ouais. Il était des années
à
faire le mort d'une certaine façon.
Exactement.
Là, il a commencé l'an passé avec Paul Stastny. C'est la première fois qu'il faisait de quoi d'optimiste.
Exactement. Mais là, il sentait. Puis on revient toujours à l'expression consacrée, la fameuse fenêtre d'opportunité. Il n'y a pas de fenêtre d'opportunité pour le Canadien à l'heure actuelle. Il y en aura peut-être une dans un an, dans deux ans. Et il faut le souhaiter. Puis tout indique que oui, il y en a une nouvelle qui va se rouvrir. Il y en a une qui était là en 2014 et restée un peu ouverte en 2015 avec l'année fabuleuse de Carey Price, mais en séries éliminatoires, ça a duré seulement deux rondes. Et après les séries de 2015, cette fenêtre d'opportunité-là, avec ce groupe-là, c'est-à-dire le groupe de Price, Pacioretty, Subban, s'est refermé. Et là, ça a été plus compliqué. Là, il y en a probablement une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. On sent là que l'air commence à rentrer tranquillement là, avec toute l'arrivée de tous ces nouveaux jeunes-là. Mais pour moi, la véritable fenêtre d'opportunité du Canadien, elle va être là quand Kotkaniemi va clairement être le centre numéro un du Canadien, que c'est lui qui va être le capitaine, entre guillemets, je ne dis pas le capitaine de l'équipe, mais le capitaine de l'attaque.
Le leader de l'attaque.
Le leader, exactement. Et ça, pour moi, c'est à ce moment-là que ça va
arriver. J'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre. T'sais, on peut toujours spéculer sur le temps que ça peut prendre. On le voit aller cette année. Il a besoin d'être bien entouré, c'est sûr. Il y a 18 ans au mois de juillet passé, mais... Écoute, ça va-tu prendre 3 ans avant qu'il devienne ce que tu anticipes? Tu penses que ça serait raisonnable?
Écoute,
deux ans peut-être s'il apprend à la vitesse grand V?
Oui, mais il n'est pas impossible que l'an prochain, ça soit plus difficile. Combien de joueurs on a vu? Très bonne première année, un petit peu au-delà des attentes. La deuxième année, tu surprends un peu moins tes adversaires. Oui. Souviens-toi de Nathan McKinnon, super première année, un peu plus difficile à sa deuxième année. Et puis après ça, à la troisième, ça reprend. Alors moi, de manière réaliste, je te dirais que la journée où Kotkaniemi va commencer vraiment à assumer ce rôle-là chez le Canadien. Alors là, on est en 2019, alors probablement en 2020-21.
Je voulais te parler d'autre...
Ce qui est vite quand même. Ça a l'air loin, mais c'est pas si loin que ça. Là.
C'est dans deux saisons d'ici.
Puis avec un peu de chance, il y aura une progression, même s'il peut avoir des...
C'est logique, parce qu'à un moment donné, on peut bien anticiper que... Non, tu sais, à un moment donné... Ouais. Tu regardes les joueurs qui ont été repêchés dans des hauts rangs avant qu'ils aient des saisons de 50 points et plus, généralement, puis des gros noms, là. Ça vient pas en claquant des doigts, puis il faut que tu aies un bon entourage pour se faire. Puis on en cherche encore, tu sais, des éléments pour juste épauler Drouin et Domi sur le premier trio. Fait que c'est pas comme si là il y avait plusieurs ressources pour entourer un gars comme Kotkaniemi non
si
plus.
Si tu permets, je vais ajouter simplement ceci. Prends Paling, puis prends Suzuki. eux aussi vont avoir une courbe d'apprentissage.
Ben,
c'est pas vrai que Poehling va arriver et que tout de suite, il va être le joueur.
Ben
d'ailleurs, Marc Bergevin te l'a mentionné en disant, écoute, il y a une mer de différence entre son circuit collégial et la Ligue nationale. Alors, lui aussi, il va avoir son année de début, sa première saison dans la Ligue nationale. Il est un peu plus vieux, peut-être que ça ira un peu plus vite, mais c'est pas vrai qu'il va être une vedette
instantanée. Mais continuons là-dessus, parce que tu vois les choses pas mal de la même façon que moi. Là, quand on essaie d'anticiper, puis c'est un exercice auquel se livrent les dirigeants du Canadien. Tu dis, bon, mais Kotkaniemi, il va y avoir une progression dans tant d'années. Suzuki, on le voit où, dans tant d'années, il va occuper tel rôle. Puis il y a la masse salariale qui vient avec ça, ils font des calculs. Puis là, ils placent t'anticipes des prévisions positives, évidemment. Mais entre-temps, tu fais quoi, par contre, quand l'odeur d'une participation série ça fait sentir dans toute la province? C'est une pas pire question, c'est insignifiante un peu, mais c'est
non,
ça pareil.
C'est une super question, puis Jeff Molson, lui, il doit se la poser. Là. Lui, il veut des matchs en séries éliminatoires.
Ben,
c'est tout à fait normal, là. Et on le sait, c'est pour une équipe de hockey, c'est la grosse période.
T'as pas tout fait cette moitié de saison-là, t'as te mettre dans le portrait pour te laisser ça glisser.
Exactement, sauf qu'il y a un piège. Il y a un piège, évidemment. Puis le piège, c'est de se faire croire qu'on est meilleur qu'on est en réalité. Et moi, je pense que pour le Canadien, cette saison, c'est trop tôt. Alors, souhaitons que le Bergevin soit patient, comme il l'a dit qu'il le serait. Maintenant, le côté B de tout ça, parce qu'il y en a un aussi. Il y a des gens là, qui doivent nous écouter, qui vont dire, et puis ils ont raison. C'est de dire ceci, c'est que t'attends que Poehling devienne très bon. T'attends que Kotkaniemi devienne très bon. T'attends que Suzuki soit capable de jouer dans la Ligue nationale de manière régulière. Ça va prendre 3 ans, ça va prendre 4 ans.
Mm-hmm.
Mais il arrive quoi à Shea Weber, puis il arrive quoi à Carey Price pendant ce temps-là?
Ben, ça, c'est une autre donnée.
Voilà, dans 3 ou 4 ans, là, ils vont être dans la mi-trentaine dans le cas de Price, encore plus avancé dans le cas de Weber.
Puis il n'y a pas bien moyen aussi de prendre des raccourcis, Philippe?
Non, c'est ça.
Tu sais, à moins de mettre la main sur un Tarasenko.
Ouais.
Mais encore là, ça ne vient pas gratis.
Non.
Mais comme, tu sais, quand il a fait l'échange sur Gatchev, Drouin,
ouais.
Sir Gatchev est plus jeune que Drouin. Fait qu'en principe, tu t'attends que Drouin atteigne son apogée avant Sir Gatchev. Donc, est-ce qu'il pourrait faire une transaction? Bon, là, on spécule totalement, là, Tarasenko, mais mettons un Simmons ou un gars. Tu sais, un gars de ce calibre-là que tu penses que tu as une chance de garder avec un contrat, tu peux peut-être prendre un mini raccourci, non?
Ben, peut-être. Ça dépend toujours des offres. T'sais, souvent, c'est parce que c'est difficile de
parler
un peu dans le vide parce qu'on ne sait pas quels joueurs sont véritablement disponibles et tout. Mais juste, tu parles de Sergachev, c'est intéressant. Regarde ce que je disais de Kotkaniemi. Je te dis, cette année, ça va bien.
Cette année.
Ben voilà. Et c'est quelle
Vincent
année?
Vincent Lecavalier l'a regardé
dans deux. Sa deuxième année. C'est tellement fréquent. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon joueur. Je te le dis tout de suite, il va rebondir à sa troisième année. C'est normal que ça se passe comme ça. Dans un paquet de sports, un athlète brille à sa première année, puis sa deuxième année, peut-être qu'il peut, les adversaires t'attendent un peu plus et tout, puis c'est plus difficile. Alors, mais oui, effectivement, on verra bien. Je suis convaincu que Bergevin, de toute façon, va écouter. Et comme il disait lui-même, c'est ça son métier, mais il faudrait vraiment que ce soit une transaction qui aiderait le Canadien sur le long terme et pas sur le court terme. Pour moi, le piège, je le répète, c'est un piège, c'est de sombrer à l'attrait du court terme pour faire une ronde de séries éliminatoires.
Mais là-dessus, je te rejoins dans ce que tu as décodé. Là, je pense qu'il s'est tracé une ligne, puis je ne crois pas qu'il la traverse, à moins que ce soit pour un gars, comme il l'a dit, un gars qui peut garder.
Ouais.
Puis là, avec des garanties qui viennent avec. Ouais. Là, on parle d'un autre genre de transaction.
Tout à fait.
Qui n'est pas une amélioration là, soudaine et temporaire. Il y a des gens qui prennent une pause ou des vacances parfois, puis on s'en rend pas trop compte. Il y a des gens qui prennent, comme nous autres, quand on prend un petit congé, c'est pas grave, ça passe pas trop, on est bien remplacé. Quand Carey Price prend un congé, ça fait toute une histoire. Quand Alex Harvey prend congé, on en parle, mais je trouvais c'est parce qu'il y a eu un échange de courriel entre toi et notre patron Michel Tremblay aujourd'hui que je trouvais hilarant par moments. C'était très drôle, mais mets-nous dans le contexte.
Ben, c'est que Alex Harvey a décidé de prendre une pause. Simon Drouin racontait ça dans la presse ce matin. Sa saison en ski de fond ne se passe pas, ne se déroule pas comme il le souhaitait. Il trouve ça très difficile. Là, il a décidé de rentrer chez lui à Saint-Féréol-les-Neiges et de s'octroyer une pause de 2 semaines à peu près. Il va reprendre la compétition à la fin du mois. Mais c'est là que tu vois combien c'est dur d'être un athlète d'élite. Puis tout à coup, lui, là, Alex Harvey, il carbure là, loin de chez lui, à l'année longue, dans un environnement extrêmement difficile à gagner ou à s'imposer dans des courses de ski de fond. Et vient tout à coup, j'ai l'impression que cette pression-là, ça vient dur. Et le fait qu'il s'octroie une pause en milieu de saison, ce qui est quand même très étonnant parce qu'il ne l'a jamais fait auparavant, moi, je trouve ça sain. Je trouve ça sain parce que je pense qu'il va pouvoir respirer un peu, là, tu sais, tranquillement, par le nez, le bon air pur de Saint-Férol, puis se refaire une psychologie plus forte. Il a dit, il disait à Simon Douin, j'avais besoin d'un break, surtout au niveau moral. Et je trouve la citation intéressante. Et quand tu regardes un peu l'année d'Alex Harvey, ça a été tellement difficile pour lui à Pyeongchang, tellement frustrant aux Jeux olympiques de 2018. Il a fini 4e aux 50 km. Il est devenu à ça de monter sur le podium. Alors, tu sais, tu vis avec cette frustration-là. T'sais, les prochains Jeux, c'est pas demain et la veille. Il faut attendre 2022. Là, après ça, il y a également un de ses coéquipiers avec qui il est très ami au sein de l'équipe canadienne, Devon Kershaw, avec qui il a déjà gagné des médailles en duo, qui a pris sa retraite. Donc, il ne voyage plus. Il n'est plus là. Ça brise un petit peu la chimie parce qu'il y a quand même une équipe de hockey, là, dans l'équipe de ce qu'ils font.
Un gros morceau. Puis il y a moins de monde dans leur équipe. Fait que c'est un gros morceau qui part.
C'est ça. Alors, tu sais, le fait qu'ils prennent une pause comme celle-là aujourd'hui, moi, je trouve ça bien.
Mais tu respectes ça. On respecte ça. L'angle, quand je faisais les gens à votre échange de courriel,
c'est par rapport
au fait que, tu sais, tu te souviens-tu de Larry Robinson, un moment donné, le Canadien l'avait envoyé en vacances une semaine en Floride? Ouais. Tu te rappelles-tu de ça? Ça remonte à l'époque de Larry Robinson. Ouais. Mais tu sais, ça avait créé bien des discussions. Tu sais, c'est comme ça se faisait pas de donner congé à quelqu'un, comme de dire on va reposer Carey Price. Mais dans le cas d'Alex Harvey, je pense une décision respectable et respectée. On se dit, hey, le gars, il est fatigué. Mais ça passerait pas sur un athlète professionnel. Hein?
Est-ce que
ça passerait? Mettons, on nous dit, hey, Drouin est fatigué. On va lui donner une semaine de congé.
C'est pas dans les mœurs.
C'est pas dans les mœurs.
Mais j'ai l'impression, Mario, qu'il en reste pas moins que cette réalité-là, la Ligue nationale de hockey a été obligée de la confronter. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec la semaine de congé depuis maintenant 2 ans. La semaine de congé, au fond, c'est pour répondre à ce problème-là. C'est que là, ils disaient, il y a des joueurs qui profitent d'un petit congé, ceux qui vont pas au match des étoiles, ils ont 4-5 jours, bien on sait, plusieurs partaient pour la Floride, il y avait une pause, mais les étoiles...
C'était pas juste pour les stars?
C'est ça, les étoiles, les joueurs vedettes partaient pour le rendez-vous des étoiles, ils revenaient et ils recommençaient à jouer. Alors là, ils ont dit, on va donner un congé d'une semaine à tout le monde, et pour moi, c'est une idée formidable. C'est sûr qu'il y a le côté de la médaille, le reste du calendrier est un petit peu plus comprimé, parce qu'on peut pas l'étendre dans l'espace-temps indéfiniment. Mais moi, je suis convaincu que cette pause-là est salutaire. Puis j'ai l'impression que ça vient justement répondre à cette question-là des joueurs qui ont besoin tout à coup de prendre un congé. Alors, c'est pas aujourd'hui un joueur
qui
a pris un congé,
acte de ça.
Mais toute l'équipe a le droit à un congé d'une semaine. Donc, dans le fond, on a véritablement compris que les joueurs avaient besoin d'une pause. Puis c'est normal. Tout le monde, c'est pas parce que tu gagnes 10 millions par année puis que tu es un joueur de hockey adulé que tu n'es pas fatigué des fois.
Mais l'opinion publique, ça passe plus serré.
Sûr, c'est sûr.
Mais t'as raison, la Ligue a réglé ça.
Je pense que c'est une très bonne réponse.
Tout à fait. Alors, le Canadien contre les Blues demain, une petite victoire hier. Ils n'ont pas joué de façon magnifique ces derniers matchs.
Non.
Quelques soucis en attaque. On va voir comment ça va continuer.
Contre Nashville, mais encore une fois, le Canadien, c'est là que tu vois que la bonne marche
équipe.
avec une équipe comme Nashville est encore...
Ils battent les équipes qui doivent battre.
Oui.
Puis, il faut, tu sais, t'en gagner de temps en temps contre les meilleurs clubs que toi, mais il faut pas t'échapper des matchs contre les clubs en bas de toi.
Non, mais si tu veux te bâtir un moral puis te bâtir une confiance, une fois de temps en temps, il faut que tu battes un gros club.
Moi, c'est ça que j'espérais. Samedi contre Nashville,
ça aurait été
bien
bon
déçu.
À domicile. Mais je trouve que le Canadien l'a fait. Pour moi, le match le plus important du Canadien cette année, ça a été celui à Vegas, juste avant Noël.
Ah oui,
le Canadien
bon.
Gagne, revient de l'arrière, marque un but avec 2 minutes à jouer, gagne en prolongation. Pour moi, ça a été un tournant chez le Canadien, ça.
Philippe, là-dessus, je te souhaite une excellente soirée et on se reparle vendredi dans notre cas.
Salut Mario.
On va mettre notre nez dans les matchs de football un petit peu,
c'est
je pense.
Ça.
Hein?
Oui, ça va être
okay. Bye bye Philippe, merci beaucoup. Merci d'être venu passer nous voir en studio en plus. Danny Dubé à Saint-Louis, au retour.